L'évangile, j'ai choisi le texte aujourd'hui qui sort du lectionnaire, puisque nous sommes au tout début de l'année. Marc chapitre 13, à partir du verset 24 à 32. Marc chapitre 13, verset 24 à 32. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Mais en ces jours-là, après ce temps de souffrance, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans le ciel trembleront. Alors on verra le Fils de l'homme arriver sur les nuages avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra les anges aux quatre côtés de la terre pour rassembler ce qu'il a choisi d'un bout du monde à l'autre. Comprenez l'enseignement que donne le figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que l'événement est proche, qu'il va se produire. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Amen. Oui, exceptionnellement, nous sortons du lectionnaire pour notre culte de rentrée, pour l'occasion, pour la circonstance. Alors peut-être vous serez étonné du choix de texte pour un culte de rentrée. Normalement, on devrait choisir des lectures qui annonceraient un espoir à venir, des exhortations, des belles promesses pour rassurer tout le monde, pour dire ça va aller. Mais vu ce qui se passe dans le monde, chers amis, l'Église aussi est dans le monde. L'Église ne peut pas être en dehors de ce qui se passe dans le monde. L'Église, elle est impactée par ce qui se passe autour d'elle. Nous subissons de plein fouet ce qui se passe dans le monde. Alors la question qui se pose, quelle est alors cette situation du monde et son avenir proche? Je dis bien avenir proche. Pendant l'été, j'ai suivi des colloques et des exposés sur une nouvelle discipline académique qui vient récemment de se mettre en place, qui s'appelle la collapsologie. La collapsologie. Oui, c'est nouveau. Et selon un spécialiste, Pablo Servigne, un ingénieur agronome, il dit, lorsqu'on étudie la population, les problèmes du monde, disait-il, on tombe toujours sur le mot effondrement. Que ce soit l'étude de la population d'oiseaux, que ce soit l'étude des insectes, que ce soit les écosystèmes, la biosphère, ou humainement et politiquement. Alors toutes ces crises sont interreliées et amènent à une possibilité. Et il souligne bien une possibilité, ce n'est pas une obligation, mais une possibilité d'un effondrement systémique global du monde. Donc, c'est l'ensemble des travaux scientifiques qui se fait dans ce domaine. Et voilà ce qu'il a dit en tant que scientifique. C'est un scientifique, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Ce qui est sidérant, disait-il, même la science n'est plus capable de traiter les questions du monde qui peuvent venir. Et ça remet en question tout notre mode de vie sur Terre. Tout est remis en cause. J'ai dit, si c'était un prédicateur ou un pasteur qui disait cela, on dit, voilà encore les chrétiens qui vont me faire peur. Mais c'est un scientifique qui parle. Et j'ai pris tout le temps pendant l'été de suivre, de lire leurs ouvrages très intéressants. Par ailleurs, cet effondrement se fait déjà, disait-il, ressentir à ce qui se passe actuellement. Les besoins de base, par exemple, comme le boire, le manger, l'hébergement, l'électricité, la mobilité, la sécurité, l'enseignement, ne sont plus assurés à cette population par les services publics, encadrés par la loi. Mais ils sont assurés par les riches, les grands industriels, les multinationaux. Et l'État a abandonné sa mission. Et c'est ce qu'on appelle les États effondrés, disait Yves Cochet. En gros, nous assistons à un effondrement d'un monde. Je dis bien d'un monde, mais pas du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde, comme Jésus dit. Ce sont les prémices de la fin du monde. Et après avoir entendu toutes ces explications de ces scientifiques sur l'état de notre monde, sur le constat, avec des chiffres, des preuves, des recherches scientifiques, des bouquins comme ça, épais, cette parole de Jésus dans Marc chapitre 13 a fortement résonné dans ma tête. Et pendant plusieurs années, je n'avais pas compris, je ne sais pas vous, si vous avez compris ce que Jésus voulait dire au verset 32, qui me restait difficile à comprendre. Voilà ce qu'il est dit au verset 32. Cependant, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure, même pas le Fils. Je dis, comment ça se fait que Jésus ne saura pas la fin? Il est Dieu, non? On vient de lire les proverbes tout à l'heure. C'est par lui que tout a été créé. Et comment se fait-il qu'il ne connaît pas la fin? S'il connaît le début, il devrait connaître la fin. Mais en lisant ces explications scientifiques, je me suis dit, mais finalement, ce ne serait pas Dieu qui va détruire le monde, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est l'homme qui va le détruire. D'ailleurs, comme ce qui s'est passé lors de l'entrée du péché, rappelez-vous la rentrée du péché dans le monde, Dieu le Père a créé les choses parfaites. Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu a vu que toutes choses sont parfaites. Et encore une fois, l'homme, le destructeur, était à l'œuvre et continue son acte de destruction jusqu'à aujourd'hui. Alors comment comprendre ces paroles de Jésus au verset 24 et 25 que je vais relire dans Marc chapitre 13, versets 24 et 25. Mais en ces jours-là, après ce temps de souffrance, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans le ciel trembleront. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, la majeure partie des paroles de Jésus, ainsi même les choix des lieux géographiques où il se déplaçait, par exemple, il allait en Samarie, il allait en Judée, tous les lieux, toutes les paroles que Jésus allait prononcer n'étaient pas faites de façon spontanée. Tout était prévu à l'avance par les Écritures de l'Ancien Testament. Depuis sa naissance, même le lieu où il va naître a été précisé. Donc, ce n'est pas par hasard où il était dans un endroit. Tout était prévu d'avance. Et même Jésus lui-même, il avait dit à chaque fois, pour que soit accompli tout ce qui est écrit. Donc, il ne faisait pas ce qu'il voulait, il faisait la volonté de son Père, accomplir tout ce qui a été annoncé. Et rappelez-vous qu'il était la dernière parole de Jésus à la croix, tout est accompli. Même jusqu'à la dernière seconde. Jésus reprend alors ici des paroles du prophète Ésaïe. Vous voyez cette phrase-là, ce n'est pas sa parole, c'est la parole de Dieu, l'Éternel, dans Ésaïe et dans Ézéchiel et de Joël. Et je vais le reprendre pour comprendre pourquoi il avait prononcé cela. Dans Ésaïe, c'était une prophétie prononcée contre Babylone. La grande Babylone et sa gloire somptueuse, inégalée, sa civilisation, ses monuments classés parmi les sept merveilles du monde. Vous savez que le jardin de Babylone est époustouflant, est classé parmi les sept merveilles du monde. Dans sa prophétie, Ésaïe annonce que Babylone perdra sa splendeur. Elle ne brillera plus. Voilà l'image, que l'étoile ne brillera plus. Elle ne brillera plus, même si auparavant elle était rayonnante comme le soleil et comme la lune et les étoiles. Babylone s'éteindra. Chez Ézéchiel, cette phrase a été utilisée contre l'Égypte du Pharaon. Il est dit que l'Éternel voilera le soleil d'une nuée et la lune ne donnera plus sa lumière. Rappelez-vous, chez les Égyptiens, qui était le dieu des Égyptiens? Le dieu Ra, le dieu soleil. Vu comme père de tous les autres dieux, créateur du ciel et de la terre. Et donc, en tenant compte de tout cela, lorsque cette parole a été paraphrasée par Jésus, cela résonne comme un jugement de ce que l'homme avait placé comme son Dieu. Tout ce que l'homme avait érigé comme idole, comme Dieu, sera jugé. Et donc l'effondrement annoncé par les scientifiques de nos jours va dans ce sens, prouve encore une fois de plus que Dieu juge les dieux de l'homme que l'homme a érigé. Les dieux qu'il croyait être sa force, sa splendeur, sa source de lumière, sera effondré. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tout est remis en cause. Et ça me fait rappeler une allusion à Satan, à Lucifer, l'ange de la lumière, l'ange déchu. Celui qui se croyait être l'ange de la lumière a été jugé et banni dans le monde. Si vous regardez de façon objective l'histoire du monde, toutes les grandes civilisations ont tous disparu de la surface du monde, de la terre. Il nous reste juste, comme j'avais dit au tout début, les vestiges et les ruines, que ce soit les Grecs, les Perses, les Égyptiens. Hier, il y avait même sur France 2 une émission sur les Égyptes, la gloire de l'Égypte à l'époque. Les Romains, où sont-ils aujourd'hui? Ils ont tous disparu. Il y a juste le Colisée à Rome qui fait rappeler la belle époque. Qui aurait pu croire à cette époque-là que tout ce qu'ils ont vu vont disparaître? Personne. Toute chose ici-bas sous le soleil, lorsqu'elle arrive à leur apogée, à leur climax, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou pas, le déclin est inévitable. Ce que nous voyons actuellement dans tous les domaines confondus, tout s'écroulera, tout se disloquera. Les prévisions ne fonctionneront plus. On a beau essayer de changer les dirigeants, on va essayer tel système, tel mouvement, telle tendance, mais la civilisation commence à descendre la pente. Et nier cela apportera encore plus de mal que de bien. Si je dis cela, chers amis, ça ne veut pas dire que je suis un catastrophiste, ni susciter un comportement de survivaliste, comme chez certains pays aux États-Unis, ils vont envisager de fuir et de vivre dans les bunkers. Mais pour vous dire que sous le soleil, la vie est régie par une loi naturelle, la naissance, la maturation, le déclin et enfin la disparition. Personne, aucun système ingénieux, soit-il, peut fuir cette réalité. Alors là, il n'y a qu'une seule valeur sûre, comme dit la parole ici, seule la parole qui reste. Tout passe sauf la parole, et la parole avec un grand P. Cette parole qui est au tout début dans Proverbes ce qui était source de toute vie. Et aujourd'hui, on ne sait plus, vous voyez vous-même, où placer son argent, sa petite épargne. On perd même de l'argent en épargnant de l'argent, n'est-ce pas? On nous a vendu qu'il est plus sûr de mettre son argent à la banque. C'est plus de sécurité. Alors, ce qui se passe nous semble impensable. Il y a de plus en plus de personnes qui gardent chez eux de la monnaie. L'Éternel avait donné une mise en garde en disant « Laissez donc l'être humain qui n'a qu'un souffle dans les narines, quelle valeur a-t-il ?» Et moi, je trouve que la Bible nous ouvre vraiment bien les yeux en nous rendant conscients de bien avoir les pieds sur terre, voir en face la réalité, mais en même temps, en étant conscients de ce qui se passe ici-bas, nous savons ce qu'il nous reste à faire, cher enfant de Dieu, savoir faire le bon placement de la vie. Où vas-tu investir le restant de ta vie face à ce chaos? Où est-ce que tu miseras ta vie tout entière? Nous pouvons mieux comprendre maintenant le sens de la phrase de Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 2. Pensez à ce qui est là-haut et non pas à ce qui est sur la terre. Cette phrase, certaines personnes ont mal compris et nous accusaient, nous les chrétiens, de vouloir se détacher de la réalité de la vie, voire même fuir les problèmes de la vie dans tout ce qui est spirituel. Non, au contraire, ça n'a rien à voir. À un certain moment de la vie, il faut prendre de la hauteur pour assurer ce qui est durable. Et étonnamment, la matière, le concret, n'est finalement pas durable. Et la parole qui est accusée à tort à travers, comme que des spéculations ou des paroles en l'air, disent les athées et les agnostiques. Mais c'est celle-là, c'est cette parole-là qui est la seule fiable. La parole, le logos, qui fut avant toute chose, une parole qui est devenue chère, qui est le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, en ce début d'année académique, chers amis, Jésus t'invite à construire ton avenir sur le roc, le Christ, qui ne bouge pas, qui n'est pas déstabilisé par la situation. C'est pénible de construire sur un roc. C'est usant. Mais ne construis pas sur le sable du confort. Si beau, tu as une belle vue devant la plage. Mais comme aux Bahamas, l'île paradisiaque, une fois que le cyclone arrive, ça devient l'enfer. Alors, où places-tu le restant de ta vie? Amen.